is my guy. Every day I hear eyes,
l'actualité. Le débat du jour, c'est du lundi au jeudi à 17h30 TU sur RFI.
Vous écoutez RFI, les 11h en temps universel, 13h à Paris. C'est l'heure de RFI Midi, présentée par Anne Cantner. Bonjour Anne.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Le tour de l'actualité dans le monde avec nos correspondants, avec nos envoyés spéciaux et à la une aujourd'hui des négociations entre le Liban et Israël. Après quasiment un mois et demi de guerre, de bombardements israéliens, de destructions considérables et de morts civiles, tous au Liban sont encore sous le choc de la journée d'horreur de mercredi dernier.
J'étais au lit quand j'ai vu deux missiles qui traversaient le mur juste au-dessus de moi, rentrer dans le sol. Les chambres ont été détruites, comme le salon, la salle à manger et la cuisine. Ma mère a les mains cassées. Mon père, c'est le cas le plus grave parce qu'il était dans le couloir et il est tombé dans le vide. Par miracle, on est juste blessé.
Reportage de nos envoyés spéciaux au Liban, écoutez à midi 25 temps universel. Avant cela, on se penchera sur la situation à Gaza dont on parle moins depuis le début de cette guerre contre le Liban, contre l'Iran et dans la région. Israël vient d'autoriser la réouverture d'un point de passage dans le nord du territoire et on fera le point sur la situation à Gaza, sur le quotidien et sur l'aide humanitaire qui manque encore avec notre invité, chef de mission pour la Palestine à Médecins Sans Frontières.
RFI Midi.
À midi et demi, l'actualité africaine. Nous parlerons notamment de cette loi adoptée à l'unanimité hier par les députés français pour restituer un certain nombre d'objets pillés par les colons français sur le continent africain. Et puis on parlera de foot. Le PSG retrouve Liverpool ce soir. Match retour des quarts de finale en Ligue des Champions après une victoire à l'aller 2-0. Le club anglais jouera à domicile tout à l'heure et l'entraîneur veut quand même y croire.
On a montré tellement de fois de quoi on était capable, de sortir un grand match. Depuis que je suis ici, en près de 50 matchs à Anfield, à 36 reprises, on a marqué plus de 2 buts. Mais il faudra faire quelque chose d'exceptionnel contre les champions d'Europe. Ce sera difficile, mais pas impossible.
Difficile, d'autant que le PSG a retrouvé de sa superbe ces dernières semaines et qu'il compte bien tenir son rang pour accéder aux demi-finales. Nous appellerons notre envoyé spécial à Liverpool dans 25 minutes et on en parlera aussi dans le journal des sports dans 3 quarts d'heure. Vous avez le programme. Bienvenue. Et tout de suite, l'essentiel de l'actualité internationale avec vous, Karine Bellicha. Karine, les discussions entre Washington et Téhéran semblent se poursuivre malgré l'échec des négociations la semaine dernière.
Islamabad tenterait de ramener les deux parties à la table des négociations pour parvenir à une prolongation du cessez-le-feu. En attendant, la situation est encore plus confuse depuis hier dans le stratégique détroit d'Ormuz. Washington y bloque le trafic des ports iraniens en réponse à la paralysie imposée par Téhéran. Le pétrole a atteint de nouveaux records en début de semaine et les risques de pénurie sont réels. Le patron de Total Energy s'est même dit prêt à payer un droit de passage. Anne Verdaguer.
Il ne reste aux pays occidentaux qu'environ 3 mois de stock, estime Patrick Pouyanné. Le dirigeant du géant mondial des hydrocarbures est inquiet. Le blocus des ports iraniens par les États-Unis ne fait qu'ajouter, selon lui, une couche supplémentaire au marché. La réouverture et la libre circulation dans le détroit d'Ormuz est donc cruciale, même s'il faut, je cite, « payer une compensation » que le patron de Total Energy estime à 1 dollar par baril, tout en rappelant que ce droit de passage est illégal. Son inquiétude est partagée par Fatih Birol, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie.
Le monde est confronté au plus grand défi de son histoire en matière de sécurité énergétique. Il s'agit du pétrole, du gaz naturel, mais aussi d'autres matières premières essentielles telles que les engrais, les produits pétrochimiques, l'hélium et bien d'autres encore.
Face à ce choc énergétique, la Banque mondiale et le FMI se sont dit prêts à mettre chacun au minimum 20 milliards de dollars sur la table afin de venir en aide aux pays les plus en difficulté.
Opposés à l'action américaine, les dirigeants français et britanniques Emmanuel Macron et Keir Starmer co-présideront vendredi une visioconférence des pays prêts à contribuer à une mission défensive sur le détroit d'Ormuz. Cette mission, au contour encore flou, est destinée à y restaurer la liberté de navigation.
Autre front de la guerre au Moyen-Orient, Israël et le Liban. Aujourd'hui, des représentants des deux pays vont se rencontrer à Washington, au département d'État, pour parler direct.
Le dernier accord entre Israël et le Liban remonte à 1983 et il était resté lettre morte. Le but est d'assurer la sécurité de part et d'autre de leurs frontières communes et de soutenir le gouvernement libanais dans sa mission de désarmer le Hezbollah. Mais l'espoir de voir aboutir cette rencontre est mince. Le chef du mouvement chiite pro-iranien s'y oppose et sentiment qu'il s'agit d'une capitulation de Beyrouth.
Le fossé se creuse entre Israël et l'Italie.
Rome est de plus en plus critique des opérations israéliennes, notamment au Liban. L'Italie annonce cette fois la suspension du renouvellement automatique de l'accord de défense qui lie les deux pays. C'est la chef du gouvernement, Giorgia Meloni, qui l'a annoncé aujourd'hui.
Et puis à Gaza, cela fait 6 mois maintenant que le cessez-le-feu est entré en vigueur.
Et pourtant, plus de 700 Palestiniens ont été tués, par des frappes israéliennes essentiellement, mais aussi parfois à cause des violences interpalestiniennes, parfois les deux. Il y a une dizaine de jours à Megazi, dans le centre de l'enclave, 10 personnes ont été tuées. Ali a porté secours aux blessés. Ali, c'est le conducteur de tuk-tuk du village. Son portrait est signé Rami El-Megari à Gaza, avec Frédéric Misselin, Jérusalem.
Ali Abou Shehada est une vraie personnalité à Megazi. Ce père de famille d'une quarantaine d'années a sauvé la vie de 5 personnes il y a quelques jours. Au volant de son tuk-tuk, casquette vissée sur la tête, le conducteur s'est dirigé à vive allure vers l'hôpital avec plusieurs blessés sur sa remorque, dont une petite fille. Il fallait aller très vite, il est donc entré dans l'établissement avec son véhicule.
L'ambulance ne pouvait pas atteindre les blessés. Je ne sais plus combien il y en avait. Je les ai chargés, il y avait une fillette parmi eux. J'ai conduit et je suis rentré dans l'hôpital avec mon tuk-tuk, les blessés à l'arrière. La porte du hall était ouverte, je suis entré en conduisant. Grâce à Dieu, ils ont tous été sauvés.
Famille, voisins, tout le monde à Megazi considère désormais Ali comme un héros. C'est ce que confirme son cousin Aouda.
Ali est un modèle pour nous tous. C'est vraiment quelqu'un d'exemplaire. Quelqu'un qui est prêt à laisser sa femme et ses enfants pour aller secourir les autres, comme la fois où la boulangerie a été bombardée par les Israéliens.
Depuis la dernière évacuation de blessés, le tuk-tuk ne fonctionne plus. Ali espère pouvoir le réparer et reprendre son activité d'ambulancier bénévole. Rami El-Megari dans la bande de Gaza, Frédéric Misselin, Jérusalem, RFI.
Au deuxième jour de sa visite historique en Algérie, Léon XIV est attendu à Annaba, dans le nord-est, sur les traces du grand penseur chrétien Saint Augustin. Le pape américain est issu de son ordre. Hier, Léon XIV a lancé un message de fraternité interreligieuse.
Le chancelier allemand reçoit à Berlin le président ukrainien et des membres de son gouvernement.
La rencontre intervient alors que les négociations initiées sous pression de Donald Trump pour mettre fin à la guerre sont au point mort. Kiev compte toujours sur le soutien européen pour continuer de résister à Moscou, et notamment sur l'aide de l'Allemagne, son principal soutien militaire et financier, alors que 4 morts sont signalés à Dnipro aujourd'hui.
La quasi-unanimité des dirigeants européens s'est réjouie de la victoire du parti conservateur Tisza aux législatives hongroises de dimanche.
Une victoire porteuse de la promesse d'un retour de la Hongrie dans la norme européenne. Après 16 ans de déconstruction de l'état de droit par Viktor Orban, les Européens sont conscients que remonter la pente pour Budapest pourra être long. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Le futur Premier ministre promet une sorte de New Deal avec l'Union européenne. Il a beaucoup à obtenir financièrement en échange de plusieurs engagements très attendus.
Oui, c'est vrai qu'avec Peter Madjar, l'espoir premier des Européens, c'est une normalisation rapide. D'abord du soutien à l'Ukraine avec le déblocage du prêt de 90 milliards d'euros qui devrait être remis à l'ordre du jour, si possible avant la fin du mois. Et ensuite, le 20e train de sanctions à l'encontre de la Russie. En revanche, le futur Premier ministre exclut clairement une adhésion rapide de l'Ukraine à l'UE. Mais les Européens espèrent tout de même des signes de bonne volonté, même limités, pour une relative accélération des négociations. De la même façon, des annonces sont attendues de la part de la Hongrie sur les restrictions à la liberté de la presse, sur les marchés publics ou sur les droits des LGBT. La remise à plat de ces questions ouvrirait la porte à une levée des blocages budgétaires européens liés à ce qu'on appelle la conditionnalité, à savoir le versement de fonds conditionnés au respect des normes de l'UE. Plus de 33 milliards d'euros de fonds destinés à la Hongrie sont ainsi bloqués dans les chapitres développement régional, prêts de réarmement et fonds de relance. C'est aussi le cas d'une astreinte quotidienne d'un million d'euros imposés par la Cour de justice pour la politique migratoire, un ensemble de fonds dont le versement serait pour les Européens un signe tangible du retour de la Hongrie dans la norme européenne.
Pierre Benazet, en direct de Bruxelles.
À rebours d'une grande partie de l'Europe, l'Espagne lance aujourd'hui en Conseil des ministres un vaste plan de régularisation des sans-papiers.
Il pourrait bénéficier à près d'un demi-million de personnes. L'initiative avait été annoncée fin janvier et devrait concerner au premier chef les migrants latino-américains. Le premier ministre socialiste, Pedro Sanchez, évoque une nécessité face au vieillissement de la population espagnole et une manière de soutenir l'économie, l'une des plus dynamiques d'Europe.
De la culture à présent, les photographies de Malik Sidibé sont actuellement visibles à Paris à la galerie RZ dans une exposition intitulée Yéyé de Bamako.
Il est mort il y a 10 ans. Il est considéré comme un maître de la photographie, reconnu pour ses portraits de studio et aussi pour son travail d'artiste contemporain. Malik Sidibé aura fait connaître au monde le Mali post-indépendance, sa fierté et sa liberté retrouvée. Écoutez le témoignage du galeriste Olivier Sultan qui a travaillé avec lui.
Depuis au moins une dizaine d'années, on reconnaît aujourd'hui, à juste titre, Malik Sidibé comme étant l'un des plus grands photographes contemporains. D'abord, d'après moi, c'est parce que c'était le miroir de la génération des indépendances, de tout l'espoir que les Africains, pas seulement les Maliens, plaçaient dans le renouveau politique des indépendances dans les années 60. Et c'était aussi l'affranchissement du regard surplombant des Blancs, des colons, et c'était l'Afrique vue par elle-même pour la première fois. Alors je voulais aussi témoigner du rôle économique, on n'en parle pas très souvent, mais il était le centre d'une économie circulaire. Moi, je l'ai vu une fois rémunérer un ancien client. 30 ans après, il l'a interpellé dans la rue, il lui a dit « Écoute, j'ai pris ton portrait dans mon petit studio il y a 30 ans et j'ai vendu cette photo récemment à un musée d'art contemporain en Amérique et j'estime que je te dois rétribution. » Donc je l'ai vu rémunérer des gens qu'il avait pris 20 ou 30 ans auparavant. Ça, c'est assez exceptionnel. Et cet amour, ce respect des autres, c'est ce qui se transmet dans ces photos.
Le galeriste Olivier Sultan, interrogé par Olivier Roger. Et puis du football, pour terminer, le début des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, fort de ses 2 buts à l'aller. Le PSG retrouve Liverpool, le tenant du titre, et plus que jamais favori pour se qualifier pour le dernier carré. Liverpool, PSG, coup d'envoi à 19h, temps universel. Et c'est à suivre en direct et en intégralité sur RFI.
Karine Bellicha pour le journal. La fabrique du monde. Guillaume Nodin, beaucoup de réactions aujourd'hui encore après la décision des États-Unis de bloquer le détroit d'Ormuz ou plus précisément les ports iraniens. Pourquoi ? Parce que l'Iran bloque le détroit ou plus précisément limite drastiquement la navigation. Et le contrôle de ce point de passage est revendiqué par les deux pays.
Oui, et sans que l'on sache très bien d'ailleurs, étant donné l'historique des deux camps, démêler le vrai du faux. L'Iran affirme être le seul pays à être en mesure d'offrir un passage sûr aux navires commerciaux, et en particulier aux pétroliers, un passage qui se trouve à proximité de ses côtes et qui lui permet de percevoir des droits qui n'existaient pas avant les 40 jours de guerre et de bombardement avec Israël et les États-Unis. L'administration américaine affirme pour sa part avoir commencé le travail de déminage du détroit et que 2 destroyers sont passés ces derniers jours. Le président américain affirme même que 34 navires sont passés dimanche.
Mais le trafic maritime reste très très ralenti sur fond de menace de reprise du conflit.
Ah oui, depuis quelques heures, le président américain a lancé un blocus des ports iraniens et contre les navires qui y entrent ou en sortent. La marine américaine est massivement présente dans la région avec une 15aine de navires. Il menace aussi de détruire tout navire iranien qui s'opposerait au blocus, exactement avec la même méthode, précise-t-il, que les États-Unis ont employé en mer des Caraïbes contre des bateaux attribués à des narcotrafiquants. Le pouvoir de Téhéran affirme pour sa part qu'aucun port d'aucun pays du Golfe Persique n'est en sécurité si ce blocus entre réellement dans les faits. Tout cela est illégal au regard du droit international et le secrétaire général de l'ONU le rappelle, mais ce n'est manifestement pas l'essentiel pour les protagonistes de la négociation.
Parce que malgré la tension, on est encore dans la négociation.
Évidemment, il faut bien constater que le cessez-le-feu entre les deux pays, qui doit durer encore une semaine malgré sa fragilité, tient malgré tout, malgré les menaces, malgré l'échec affiché des discussions d'Islamabad. Le gouvernement pakistanais affirme que des efforts sont toujours en cours pour régler les derniers litiges. C'est que pour parler de paix, c'est mieux d'être en position de force, de montrer qui est aux commandes. C'est un message à la partie adverse. Le blocus américain pourrait asphyxier l'économie de l'Iran, qui sait pour sa part que la situation n'est pas bonne politiquement pour les États-Unis. Il s'agit aussi de parler aux opinions, même si si c'est moins crucial pour l'Iran, où ceux qui expriment un désaccord ont de bonnes chances d'être massacrés par le régime.
C'est aussi un message à ceux qui subissent la situation dans le détroit d'Ormuz.
Par exemple, les pays asiatiques, et en particulier la Chine, qui a beaucoup œuvré en coulisses pour les discussions au Pakistan. La Chine dénonce un blocus dangereux et irresponsable. Il faut dire que ces bateaux sont concernés. Le ministre chinois des Affaires étrangères dit à son homologue pakistanais que le maintien du cessez-le-feu est une priorité absolue. C'est peut-être un message à Donald Trump avant de voir Xi Jinping à Pékin dans un mois. Une rencontre importante pour les deux hommes. C'est aussi le cas pour l'Europe, la France et le Royaume-Uni, tensés il y a peu par Donald Trump pour ne pas l'avoir soutenu, annonce l'organisation vendredi d'une visioconférence avec les pays prêts à contribuer à une mission multinationale.
Radio HDR.
Venez donc, mon cher ami.
Le mix de toutes les cultures.
Soyez pas timide.
99.1 FM.
99.1 FM.
osache wejomo mi boke kerembo umanya gore oje to mende umanya runde o wa mende osache wejomo mi boke kerensia yero na go e nino yi yero na go e nno yi o ma yonu nde bo age go e nno yi Osache wejomo Oko e uno yi Oko e uno yi Osache wejomo
Le mix des cultures.
C'est Chivri Dana, bonsoir. Buster.
C'est la plus belle, ma chérie, Sugar Baklava. Non, pas tout, sinon Katana. Toi, t'es jaloux, allez, va là-bas. Va là-bas, va là-bas. J'suis dans le flow, elle est top. Faut pas que nous deux ça flop. J'affiche pas sur TikTok. Son côté hard rock. Maxi, qui j'ta pour ses beaux yeux. Madame me dit faut doser. Qui j'ta pour ses beaux yeux.
J'la trouve sublime sous rosé.
J'aime quand tu m'aimes. Ça me fait vriller mon corazon.
J'crois j'vais serrer, j'crois j'vais serrer, j'crois j'vais serrer.
J'sais qu'ils en somme. Ça les rend Parkinson.
Laisse-les parler, laisse-les parler, laisse-les parler.
La plus belle, ma chérie, Sugar Baklava. Non, pas touche, sinon Katana. Toi, t'es jaloux, allez, va là-bas. Va là-bas, va là-bas. Elle est douce, ma belle, y'en a pas douce comme elle. J'en perds la touffe, ma mène, elle rend fou les couilles.
Linga, linga, j'ai gelé.
J'aime quand tu m'aimes, ça me fait vriller mon corazon.
J'crois j'vais serrer, j'crois j'vais serrer, j'crois j'vais serrer.
J'sais qu'ils en somme, ça les rend Parkinson.
Laisse-les parler, laisse-les parler, laisse-les parler.
C'est la plus belle, ma chérie, Sugar Baklava. Non, pas touche, sinon.